Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du Grand Dialogue 2, ce soir, la francophonie, un thème dont le choix n'a absolument rien de fortuit avec la célébration hier lundi, donc, de la Journée internationale de la francophonie. On dit de l'Organisation internationale de la francophonie qu'elle est la deuxième, elle est devenue aujourd'hui la deuxième plus grande organisation après l'ONU. Mais comment se porte réellement l'espace francophone à cette date? Qu'est-ce que la francophonie a apporté véritablement dans les liens entre les pays qui ont donc en partage la langue française? L'anglo-américain constitue-t-il une menace pour le français? La promotion de la langue française, la langue de Molière, dans des pays comme le Mali, n'a-t-elle pas d'impact sur les langues nationales? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont Moussa Fadiko. Il est le représentant du Mali auprès de l'OIF. Il est ancien ministre de l'Éducation. Nous avons également dans ce studio Gourodial qui est le directeur national de l'éducation non formelle. Au téléphone, nous avons Clément Dambélé, il est politologue, il se trouve présentement en France. Et également, nous aurons en ligne notre invité, mais cela sera confirmé donc d'un moment à l'autre.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. La Journée internationale de la francophonie, c'était donc hier lundi. Quelle est la portée réelle de cette célébration pour un pays comme le Mali? Je pose la question en premier lieu à vous, Monsieur Moussa Fadiko, vous qui êtes ancien ministre et vous êtes le représentant de l'OIF, du Mali auprès de l'OIF.
Merci beaucoup. Je pense que le Mali est un pays francophone. Le Mali est donc un des 84 pays sur notre planète qui appartient à l'Organisation internationale de la francophonie. Notre hymne national est en français. Notre langue officielle, c'est le français. Notre langue d'enseignement en général, c'est le français. Et donc, nous sommes partie prenante de la francophonie. Et il est clair que ceci étant, la célébration de la Journée internationale de la francophonie revêt une grande importance pour notre pays et ses citoyens. Parce que ça nous permet chaque année de redire notre appartenance à cet espace et de redire notre communauté de destin avec l'ensemble des pays appartenant à cet espace. Et de célébrer avec les autres pays appartenant à cet espace notre langue commune, qu'est le français. Mais ce n'est pas que le français, c'est toutes les langues appartenant à l'espace francophone, c'est-à-dire toutes nos langues nationales, toutes nos langues maternelles font partie de cet espace et sont célébrées en même temps que la langue française ce jour-là. Même si la langue que nous avons en partage, la langue que nous avons en commun, c'est le français. Et c'est elle qui constitue le lien très fort donc, entre nos États, entre nos peuples, entre nos populations.
Gourodial, vous, en tant que directeur national de l'éducation non formelle, quel sens donnez-vous à cette date, la célébration de cette Journée internationale de la francophonie?
Comme M. le ministre vient de le dire, cette journée a une importance capitale pour nous. Comme il l'a dit, l'espace-là, ce n'est pas seulement célébrer le français ou bien la francophonie d'une manière générale, mais ça serait célébrer aussi les autres langues nationales au niveau des différents États. Si je prends un peu l'utilisation de nos langues nationales au niveau de nos écoles, en faisant une comparaison, d'abord à l'école, nous, en notre temps, tout le monde allait à l'école en français. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter les langues nationales. Ces expériences ne vont pas sans le français, parce que le français qui était là, qui constitue une base dans le domaine de la connaissance. Donc toutes les connaissances pour nous aujourd'hui partent de ce français. Donc ce français-là est indispensable pour nous dans le domaine de la communication entre les peuples même, entre les différents groupes ethniques. Par exemple, un Sonray, un Peul qui ne peut pas communiquer dans leur langue maternelle communique forcément par le français. Donc le français n'est pas une langue étrangère pour nous, ça fait partie déjà de notre culture et ça rentre dans notre système éducatif. Et on est obligé de compter avec ça, même en voulant développer la langue nationale.
Nous avons donc en ligne Doumbouy Fakoly, il est le président de la Ligue des écrivains du Mali. Dites-nous, monsieur Fakoly, comment est-ce que vous appréciez la célébration de cette journée internationale de la francophonie comme événement?
Oui, d'abord une petite correction. Je suis plus le président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. Je suis d'abord fait avant d'être le président de la Ligue des écrivains.
C'est noté.
Moi, je veux apporter une petite précision. Les Français sont francophones. La France est francophone. Tout le monde parle le français. Nous, nous sommes du pays d'expression française. C'est une minorité qui parle le français. Il ne faut pas étaler, il ne faut pas généraliser. Il faut faire cette différence-là. Les Français sont bien francophones, ils sont tous français, pas le français. Nous, c'est une minorité qui parle le français, donc nous sommes d'expression française. Le problème, il n'est pas là. Le problème est tout simplement qui gagne dans la francophonie. À l'évidence, c'est la France qui gagne dans la francophonie, puisque tous les pays africains s'allient à la France pour parler sa langue et permettre à sa langue de devenir une langue internationale pratiquement au même niveau que l'anglais. Donc c'est la France qui est gagnante dans tout ça. Les pays africains, on nous dit, ça nous permet d'échanger entre nous. Mais on oublie très vite qu'avant que le français ne vienne, avant que les langues coloniales ne viennent, on échangeait déjà entre nous. Il y avait des langues d'empire. C'est ça qu'on oublie. C'est-à-dire, moi, je pense simplement que les Africains ne veulent pas accomplir l'acte courageux qui consiste tout simplement à essayer de rallier notre culture de l'arrimer à une langue nationale ou à une langue africaine, en tous les cas. Parce que quand vous vous appropriez une langue, vous vous appropriez l'univers de cette langue-là. Mais l'univers culturel français n'est pas pareil que l'univers culturel africain. Il y a des différences fondamentales. Mais donc on s'approprie les réalités de la langue française qui ne sont pas les nôtres. Il y a des mots de la langue française qui ne sont pas une réalité chez nous. Ça, aucune langue jamais n'a été en panne de mots pour inventer en tout cas un mot pour désigner une réalité qu'elle a vécue. Donc si dans les langues nationales, il y a certains mots qui n'existent pas, ça veut dire que nous n'avons jamais vu ces réalités-là. Or, maintenant, on nous a imposé des réalités qui n'étaient pas les nôtres, comme par exemple prison, comme par exemple prostitution, comme par exemple homosexualité. Et quand des mots de chez nous, les bouillis, ils vont vulgairement dire que ce sont des fétiches, ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'il faut être le courage, il faut avoir le courage de dire tout simplement que cette francophonie-là, ça nous sert bien sûr, mais ça sert davantage la France. C'est la France qui tire le maximum d'intérêt de cette francophonie.
Nous avons Clément Dambélé, il est politologue, il est en ligne, il se trouve à Metz. Monsieur Dambélé, dites-nous, le fait qu'un pays comme le Mali fasse partie de l'espace francophone, qu'est-ce que ça apporte aux Maliens?
Tout le monde, qu'est-ce que ça apporte aux Maliens? C'est la dimension linguistique. Vous savez, avant de me lancer, je vais juste faire une petite rectification en ce qui concerne l'intervention de l'ancien ministre, M. Diko. Il a dit tout à l'heure que le français, c'est la langue officielle et le français, c'est la langue nationale. Alors, je rectifie, le français, c'est pas la langue nationale du Mali. Le français, c'est la langue officielle, c'est la langue d'instruction également. Cela dit, qu'est-ce que la francophonie
apporte? Allez-y, monsieur Dambélé, allez-y.
Bon, je demandais si vous m'entendiez.
Allez-y, vous aurez l'occasion, monsieur le ministre, de réagir. Allez-y.
Voilà, qu'est-ce que le français apporte aujourd'hui au Mali, et notamment dans l'espace francophone, c'est une dimension linguistique. Vous savez, cette langue permet aujourd'hui à différents peuples de pouvoir se comprendre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se rencontrer et de créer le dialogue et la compréhension. Ça, c'est très important du point de vue intellectuel, du point de vue d'échange culturel, du point de vue d'échange commerciaux, si on peut aller dans ce sens. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions concernant le français et la francophonie, parce que ça fait deux choses différentes. La question qu'on pose aujourd'hui, je pense que nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est que la francophonie, elle sert à quoi aujourd'hui aux locuteurs du français. La francophonie, elle sert à quoi aux anciennes colonies françaises? La francophonie, elle sert à quoi en dehors de son espace même? C'est la question qu'il faut poser aujourd'hui. C'est une question substantielle et existentielle pour le français, pour la francophonie, pour se dire, mais cette langue que le français, lorsqu'on quitte l'espace francophone, elle sert à quoi? Quelle est la défense aujourd'hui au sein même de la francophonie et quel est l'effet du mécanisme chichiste de la francophonie à l'intérieur même de son espace et quelle est la politique efficace, une politique qui va au-delà de la considération métropolitaine qui est de la France, alors que la francophonie, en revenant, je reviendrai là-dessus, elle n'est pas célébrée vraiment en France. Quand vous demandez à un Français en France la francophonie, il va vous dire, bah, écoutez, moi je m'en fous, je ne connais même pas. Et je suis sûr que plus de 70% des Français ne connaissent même pas la francophonie. Et ils s'intéressent. Donc la France, même Paris, ne s'intéresse pas vraiment de la francophonie en dehors de son aspect politique. Maintenant, je reviens à la francophonie parce que je m'exprime en français, parce que je pose cette culture à travers sa dimension linguistique, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir à quoi ça sert la francophonie à l'intérieur de l'espace francophone, notamment les États africains.
Monsieur Dembélé, nous allons vous retrouver dans un instant, le temps de retourner dans ce studio pour permettre à monsieur le ministre de réagir.
Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses, je pense, par rapport au premier intervenant. Le Mali est un pays francophone. Le Mali appartient à l'Organisation internationale de la francophonie. De ce fait, le Mali est un pays francophone. Bon, nous ne sommes pas des Français, mais nous exprimons en français, nous exprimons dans nos langues aussi. Et ce n'est pas une minorité qui parle le français au Mali. Je pense qu'on fait l'amalgame assez souvent. Toutes nos écoles se font en français. Aujourd'hui, nous avons un taux de scolarisation très important. Nous frisons les 80% au moins. On ne peut pas dire dans ces conditions-là que c'est une minorité qui parle. On a voulu que ce soit la langue d'une minorité, ce n'est pas la langue d'une minorité. Et j'ai commencé par ceci en disant que notre hymne national est en français. Le texte de notre hymne national, il est en français. Notre langue officielle, c'est le français. Notre langue d'enseignement, c'est le français. La langue de la justice, c'est le français. La langue de l'Assemblée nationale, c'est le français. On ne peut pas considérer ça comme un épiphénomène. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Notre être profond est profondément ancré dans l'expression francophone. Mais cet univers-là, ce n'est pas un univers uniforme. Ce n'est pas un univers, je ne sais pas, qui appartient à la France. Parce que si vous prenez la francophonie, c'est sûrement la France, mais c'est tous les pays d'expression française. Et c'est tous les écrivains, c'est tous les chercheurs, c'est tous les scientifiques, c'est tous les hommes de culture, c'est tous les artistes qui s'expriment en français. Et ce n'est pas que des Français. Ça va très très loin au-delà de la France. Et ce fonds culturel-là, aujourd'hui, qu'englobe le français, n'appartient pas à la France. Il appartient à la France et à nous tous. À nous tous. Nous avons de grands écrivains dont les œuvres comptent dans l'héritage universel. Il est en français, cet héritage-là. Et leurs œuvres comptent. Des écrivains africains, des écrivains maliens, des écrivains antillais, vous savez, leur part dans le français est énorme. Et vous voulez, quoi, donner tout ça à la France en disant que oui, c'est un héritage néocolonial, etc., colonial. Non, moi je ne m'exprime pas en tant que ressortissant d'un pays anciennement colonisé. Je m'exprime en tant que pays souverain qui a décidé d'appliquer une politique, une vision du monde et d'apporter ce que sa souveraineté permet à l'échange donc international.
Studio Tamani, nous allons nous retrouver pour la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La francophonie, c'est donc le sujet du jour. Et on le sait bien, l'Organisation internationale de la francophonie a beaucoup d'objectifs. Parmi ces objectifs, il y en a qui sont donc relatifs à la démocratie, au développement, à beaucoup de choses. Alors, je disais que l'OIF, quand même, est considérée comme la deuxième plus grande organisation internationale après les Nations Unies. Mais on sait que parmi les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont confrontés à des situations de crise. En tant qu'organisation, une organisation aussi importante que cela, l'OIF a pu apporter quoi? Est-ce que l'OIF a pu prouver qu'elle est à même quand même de trouver des solutions pour tenter de résoudre ces problèmes? Je pose la question à vous, Guru Djal.
Bon, moi je crois que c'est difficile de dire que l'OIF a apporté quelque chose ou bien n'a pas apporté quelque chose dans la gestion des crises dans l'espace francophone. Bon, les crises aujourd'hui sont un peu généralisées dans les pays sous-développés. Bon, si l'on analyse un peu ces situations de crise, qu'est-ce qui est à la base en réalité? Moi, je pense que c'est surtout le sous-développement. Comment éviter les crises? Comment sortir du sous-développement? Donc moi, à mon avis, il faudrait passer forcément par un développement plus ou moins équilibré, par un changement de relation entre développés et sous-développés, des pays sous-développés, entre, comment dirais-je, les Africains, par exemple, et puis peut-être l'Europe, particulièrement dans la francophonie, qui est un espace assez large des pays d'expression française, mais un peu sous le contrôle politique de la France dans ce domaine. Je voudrais dire, par exemple, concernant la gestion de ces crises-là, si l'on prend le Mali, la France a joué un rôle assez important dans ce domaine, dans la gestion des crises. L'intervention au niveau de leur intervention à tous les niveaux jusqu'à ce jour. Donc la France a joué un rôle très important dans le maintien de la paix chez nous et ailleurs, en RCA, au Congo et ensuite dans beaucoup d'autres pays. Donc la France quand même a joué un rôle très très important en tant que France et sous la tutelle peut-être des Nations Unies, sous la grande couverture des Nations Unies. Donc la France en tant que représentant, je ne sais pas, d'un État, en tant qu'élément de la francophonie, a joué un rôle très important. Donc dans cette gestion des crises, je pense qu'elle est assez importante.
Nous avons, je le rappelle, Doumbi Fakoli qui est en ligne. Alors, dites-nous, M. Doumbi Fakoli, on l'a dit tout de suite, il y a beaucoup de pays membres de l'OIF qui sont quand même en crise, notamment sur le continent africain. Alors, la francophonie, en tant que quand même quantité, est-ce qu'elle n'a pas apporté quelque chose par rapport à la résolution de ces crises, au-delà du facteur linguistique?
Non, franchement, on ne voit pas du tout ce que la francophonie, ce que l'OIF a pu apporter au développement de l'Afrique, à la stabilisation de l'Afrique. Les crises sont multiples, on a dit, de temps en temps, elle est intervenue. Mais pour revenir à ce que M. Duco a dit en parlant du Mali comme étant un pays francophone, je dis à M. Duco, et ça c'est une réalité incontournable, c'est une minorité qui parle le français dans nos pays. Quand on veut gérer une crise, nous avions des phénomènes, des techniques de prévention de crise, de gestion de crise. Les anciens sont là, les anciens qui sont dans les villages, pourquoi on ne les associe pas? Parce qu'ils ne parlent pas français. Donc on donne ce rôle-là important à une minorité qui parle français et qui ne peut pas résoudre nos problèmes. Donc le Mali n'est pas un pays francophone, le Mali est un pays d'expression francophone.
Oui, Doumbi Fakoli, il y en a quand même qui avance un chiffre. On parle de plus de 2 millions de Maliens qui savent s'exprimer en français.
Qui s'expriment en français, mais le Mali a combien de 2 millions d'habitants? Plus de 10 millions. 2 millions, c'est quoi? C'est une minorité. Dans tous les pays d'Afrique, c'est comme ça.
Non.
Les pays de l'Afrique, pardon. Oui, vas-y.
Non. Je ne crois, honnêtement, honnêtement, je ne crois pas que ce soit une minorité, même si je n'ai pas dit que le français est une langue nationale, comme le prétendait M.
Clément Dambélé.
Moi, je considère le français comme une de nos langues nationales, c'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Elle fait partie de notre être profond. Mais ce n'est pas une minorité et ce n'est pas... l'élite dans un pays ne peut pas être considérée comme une minorité parce que c'est quand même la minorité agissante. Mais au-delà de cette minorité, je dis encore une fois, notre école c'est en français. Notre école c'est en français et ça fait depuis les indépendances, depuis avant les indépendances que nous avons commencé à aller à l'école. Et aujourd'hui, je dis, le taux de scolarisation est au-delà de 80%. On ne peut pas considérer ça comme une minorité dans un pays. Et 2 millions sur 10 millions, ce n'est pas une minorité en termes de porteurs de langue, en termes de locuteurs. Ce n'est pas une minorité. Et cette minorité, elle a un rôle tellement important. Elle définit tellement de choses dans la vie de notre nation qu'on ne peut pas la considérer comme une minorité, un épiphénomène.
Nous allons permettre donc à M. Doumi Fakoly de réagir avant de donner la parole à Clément qui se trouve en France.
Voilà, bon, on ne va pas, disons, supporter sur minorité et majorité. C'est pas ça, c'est pas le problème, il n'est surtout pas ça. Le problème, c'est que quand vous vous appropriez une langue, vous vous appropriez la culture de cette langue-là. Nous ne sommes pas des Français, nous ne serons jamais des Français. Ce n'est pas dans notre âme, contrairement à ce que M. Ducot a dit. Le français n'est pas dans notre âme. M. Ducot ne me connaît pas. M. Ducot, j'ai écrit 40 livres en langue française. 40 livres. Je suis même récompensé par Chirac d'un diplôme, je ne sais plus comment ça s'appelle encore, parce que je m'exprime en français. Mais je rends service à la France, moi. C'est un service que je rends à la France. Nous, écrivains, nous rendons service à la France en utilisant sa langue pour en faire une langue internationale. En revanche, qu'est-ce que nous avons? Et nous n'avons rien, à part peut-être des reconnaissances qui nous donnent, chevalier de la nationalité, des choses comme ça. Donc, nous disons que ce que nous faisons, c'est un service que nous rendons à la France pour lui permettre d'avoir une langue qui rivalise avec les autres langues. Depuis que nous sommes en contact avec lui, avec elle, plutôt la France, nous suivons nos enseignements, nos cursus en langue française, mais cela ne va pas pour autant dire que nous sommes des Français, cela ne veut pas pour autant dire que la langue française est devenue une langue que nous avons intégrée. Nous ne l'avons pas intégrée. Nous l'utilisons, mais nous ne l'avons pas intégrée. Parce que nous ne vivons pas comme des Français. Les réalités ne sont pas nos réalités. À part, encore une fois, une minorité qui s'identifie à la France, une minorité qui pense qu'elle est effectivement intellectuelle, donc elle est au-dessus des autres. Et je dis simplement que si la l'OIF n'avait pas cette influence-là, parce qu'elle ne doit pas avoir cette influence. Si on associait les garants de nos traditions, qui ont géré les crises, qui savent comment on gère les crises, qui savent comment on peut, disons, prévenir les crises, si on le faisait, je pense qu'on n'en serait pas là.
Monsieur Doumi Fakoly, parlez un peu plus fort, puisqu'on a quelques petits soucis avec la ligne. Oui. Dans tous les cas, on va vous retrouver dans un instant de temps d'essayer de voir comment est-ce que cela va mieux marcher. Maintenant, nous allons en France retrouver Clément Dambélé, qui est donc politologue. Monsieur Dambélé, dites-nous, l'OIF a-t-elle permis à ses pays membres, notamment ceux d'Afrique, d'être mieux intégrés économiquement et culturellement?
Mieux intégrer économiquement, je dirais non, parce que quand on compare les états de l'EIF au Commonwealth, on voit quand même la différence entre les pays francophones et les pays anglo-saxons. Ça, la différence, je ne pense pas que l'ex-ministre me dira le contraire, M. Ducot. Mais ce qui, permettez-moi quand même, parce que c'est très important cette émission, que les gens comprennent quelque chose. Quand j'ai passé mon doctorat de langue et littérature française, j'avais dit une chose, la langue française me permet de m'exprimer, je ne m'identifie pas dans cette langue. Parce qu'elle ne me permet pas d'exprimer la profondeur de ma pensée et de mon être. Je ferme la parenthèse. Je vais simplement dire qu'aller au point aujourd'hui de dire que le français est notre langue nationale, franchement,
faut que je rectifie,
ça dépasse toutes les compréhensions, même si. Avec tous les respects que je dois à M. Ducot, la langue française n'est pas une langue nationale, elle ne doit jamais être considérée comme la langue nationale du Mali.
apparemment, oui. Je crois savoir qu'il y a peut-être une petite incompréhension à ce niveau. On va donc permettre peut-être à M. le ministre de vous répondre.
Voilà. Monsieur Clément, je pense que...
Je vous laisserai, M. Dico, répondre après. Je vous laisserai, mais rectifier si je me trompe.
Peut-être vous vous trompez. Je considère tout au plus le français comme une de nos langues nationales. Une de nos langues. Ce n'est pas notre langue nationale. C'est notre langue officielle. Mais c'est une de nos langues. Parce que vous faites toutes vos études en français, toute votre vie. Attendez.
Je voulais parler. Juste une chose. Une langue nationale, c'est quoi? La définition d'une langue nationale. Du point de vue sociolinguistique, c'est quoi? Je vous pose cette question.
Mais répondez à la question vous-même. Répondez à la question
alors,
vous-même.
Moi, comme je vous ai posé la question, alors si vous n'avez pas la réponse, moi je réponds.
Oui, oui.
Une langue nationale est définie du point de vue sociolinguistique comme une langue qui détermine un territoire, une langue qui détermine une histoire, une langue qui détermine une culture, une langue qui détermine une identification ethnique. Mais vous ne pouvez pas considérer la langue française comme étant une des langues nationales du Mali. Ça pose un problème quand même de la considération de l'histoire, la considération de la culture, la considération de la langue malienne et le français parlé par quelle ethnie au Mali. Et ça ne répond pas à tous ces critères.
Mais justement,
tous les sociolinguistes vous diront que la langue française ne peut pas être considérée comme une des langues nationales du Mali. Comme le sujet n'est pas sur ça, on est sur la francophonie, continuez avec la francophonie.
Continuez avec la francophonie, mais vous, sociolinguiste, dites-moi, quand la langue de votre hymne national, qu'est-ce que vous avez de plus sacré que votre hymne national? Quand votre langue d'enseignement, quand votre langue officielle, quand votre langue de l'Assemblée nationale, quand votre langue de la justice, de l'administration, c'est une langue, comment est-ce que vous pouvez la considérer autrement que comme étant votre langue nationale? Toutes les ethnies du Mali parlent cette langue, et au-delà de nos ethnies, bon, c'est tout le monde qui parle. Bon, mais il ne s'agit pas de ça. Je voudrais dire aussi à M. Fakoli, que je le connais, sur la quarantaine de livres qu'il a écrits, j'en ai lu certainement au moins un. Mais je voudrais lui poser la question de savoir comment est-ce qu'un homme qui a consacré sa vie à écrire une quarantaine de livres peut considérer cette langue comme un épiphénomène dans sa vie. Combien de livres vous avez écrits dans une autre langue?
Alors, si Doumbi Fakoli souhaite répondre à cette question, on va vraiment lui donner la parole, le temps de revenir à vous, M. Dial.
Oui, moi, je vais aller dans le sens de M. Clément Dembélé. Je crois que c'est M. Clément Dembélé. Il dit que la langue nationale, c'est la langue maternelle ou la langue paternelle. Le français n'est ni notre langue maternelle ni notre langue paternelle. Le français ne peut pas être notre langue nationale. Elle est une langue d'utilisation. On utilise le français. On l'utilise pour nos besoins, pour faire nos échanges, et on lui rend surtout service. Je crois que ça, c'est le rôle de la langue française. Vraiment, il ne faut pas lui donner un rôle supérieur à ça. Elle ne peut pas être notre langue nationale. Parce qu'elle n'est pas notre langue maternelle, elle n'est pas notre langue paternelle. Elle ne véhicule pas notre culture.
Vous avez écrit combien de livres dans votre langue maternelle?
Non, attendez, le problème...
Si, mais répondez à ça, peut-être. Vous avez passé tout votre temps à écrire dans une langue, et vous dites que ce n'est pas votre langue.
Aucun, M. Dico, aucun, je n'ai écrit aucun...
Dans une autre langue, mais comment est-ce que vous pouvez dire que ce n'est pas votre langue première, la plus importante d'ailleurs?
Non, c'est ma langue d'expression avec les étrangers. Quand je suis au Mali, je ne parle Bamana,
Vous écrivez pour les étrangers?
Vous écrivez pour
les étrangers, vous n'écrivez pas pour les Maliens?
Monsieur Dico, j'écris pour les Africains. Toutes mes œuvres, moi, tous mes écrits s'adressent essentiellement à la communauté noire d'Afrique et de la diaspora.
Mais pourquoi vous n'écrivez pas dans votre langue?
Mais on est d'accord sur ça.
De toute façon, on n'est pas là entre défenseurs de la langue française et défenseurs de la langue nationale.
Je pense que nous allons nous tourner du côté de Gouro Dial, le directeur national de l'éducation non formelle. Voilà.
Laissez-moi terminer.
Alors, en une phrase alors.
Ce que vous dites là, c'est un peu d'obstruction. Laissez-moi terminer. J'ai dit la langue française, ce n'est pas notre langue nationale, parce qu'elle n'est ni notre langue maternelle, ni notre langue paternelle. C'est une langue d'utilisation. On l'utilise pour nos besoins. Moi, je l'utilise pour communiquer avec mes frères, mes sœurs, mes enfants qui sont dans la diaspora et qui sont en Afrique. Parce que c'est le langage commun ou l'écriture commune qu'on comprend. Mais nous savons très bien que c'est une écriture qui nous a été imposée. J'ai parlé de langue d'empire. S'il n'y avait pas la colonisation, aujourd'hui, on n'aurait pas les langues d'empire. Nous avons la première écriture qui est ici au monde. Et la première langue, ce sont les hiéroglyphes. Ça nous appartient, les médunétaires, on les appelle. C'est nous qui avons écrit les premiers textes sacrés, par exemple. 1000 ans plus anciens que l'Ancien Testament, 2000 ans plus anciens que le Nouveau Testament et 3000 ans plus anciens que le Coran.
Ndoumbi Fakoli, nous allons vous retrouver dans un instant. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La francophonie, je le rappelle, c'est donc le sujet du jour. À présent, nous allons nous tourner du côté de vous, Wouro Dial. Vous êtes le directeur national de l'éducation non formelle et de
langues nationales.
Alors, cette question à vous donc. La francophonie aura-t-elle tout au moins permis de donner quand même plus de visibilité aux pays africains qui en sont membres?
Bon, plus de visibilité, c'est un peu aussi complexe à exprimer comme idée. Je crois que le français et la francophonie, d'une manière générale, peuvent être utilisés comme des moyens d'expression ou bien comme des lieux d'expression pour les francophones d'une manière générale. Donc la visibilité par rapport à quoi? La visibilité par rapport au développement, la visibilité par rapport à la science, la culture d'une manière générale. Bon, la culture est orientée d'une manière... Bon, pas seulement le français, si vous voyez un peu, dans les cercles francophones, il y a des expressions, beaucoup d'expressions qui se font en français, beaucoup d'artistes s'expriment en français, et c'est soutenu très souvent par, je ne sais pas, des centres français qui sont à travers ces pays francophones. C'est souvent, si les États eux-mêmes ne peuvent pas soutenir les artistes d'une manière générale, c'est toujours soutenu plus ou moins par, bon, je ne dirais pas la francophonie, mais le plus souvent peut-être par les centres français, les centres culturels français le plus souvent, si vous voyez un peu comment ça s'exprime un peu. Bon, dans le domaine de l'écriture, c'est la même chose. Quels documents, quels romans sont écrits? S'il y a des rencontres plus ou moins régulières, le lancement des littératures des pays, si vous voyez, comment je voudrais dire, c'est la francophonie d'une manière générale quand même. Ça permet l'expression quand même de la culture d'une manière générale. Hein. Je veux dire bien que la France soutient, pas seulement la francophonie, c'est la France, je veux dire, qui soutient un peu tous ceux qui veulent s'exprimer dans le domaine du français. Voilà, merci.
Alors, Clément Damilé, il y a quand même des critiques de la francophonie. On en a entendu certains dire, par exemple, que cette francophonie n'est autre chose qu'une façon pour la France de tenter de retrouver son influence d'antan sur un certain nombre de pays. Comment est-ce que vous appréciez cela?
Je ne veux pas aller jusqu'à ce niveau. Vous savez, il faut être objectif. Il ne faut pas considérer la francophonie comme un outil de colonisation. Ça c'est pas vrai. Ça relève de la psychose totale. Le français ou la francophonie, la politique de la francophonie, elle est certes insuffisante. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais aller jusqu'à penser que c'est une espèce de coupole de la continuité de la colonisation, cela n'est pas vrai. Vous savez, le français, la langue française, elle est rentrée dans un moment, elle a croisé notre histoire, pour reprendre une étude. Elle a croisé notre histoire et elle a continué avec notre histoire. Elle n'est pas une partie intégrante de notre histoire, elle continue de façon parallèle avec notre histoire. Et aujourd'hui, si la France continue avec la francophonie et les Anglais font la même chose, les Espagnols font la même chose et les Chinois font la même chose. J'étais en Chine à un colloque il n'y a pas longtemps. C'est des gens qui, vous venez en Chine, vous ne voyez pas, on n'écrit pas en anglais, on n'écrit pas en français ni en espagnol, on écrit seulement en chinois. Et tous les États ont besoin de promouvoir l'écriture au-delà des territoires. Mais il n'est pas vrai aujourd'hui de dire que la francophonie, c'est une espèce d'arme que la France utilise pour continuer à avoir la mainmise sur les États francophones. Ça, c'est faux, parce que quand vous allez au Québec, quand vous allez au Canada, Quand vous allez en Belgique, on parle français. En Suisse, on parle français. Il y a d'autres pays, il y a plein d'autres pays où la France ne peut pas avoir, ne peut pas dire aujourd'hui avoir la main sur l'autonomie de ces pays. Pourtant, ce sont des États qui parlent français, qui font la promotion de la langue française. Mais il faut qu'on aille plus en profondeur, si vous me permettez, qu'on puisse critiquer la francophonie, qu'on puisse dire aux défenseurs de la francophonie qu'il y a des exigences, aux défenseurs de la francophonie, que la politique même de la francophonie est à remettre en cause, qu'aujourd'hui, il faut balayer une grande partie de cette politique qui relève d'une vieille lune qui n'a plus raison d'être, et qu'au XXIe siècle, on ne peut plus continuer avec cette politique de considérer une langue comme étant une identité culturelle à part entière et que nous devons nous vanter de cela. C'est que ça, c'est faux. Notamment le cas de l'Afrique est un cas spécifique dans le cadre de la francophonie. Mais en dehors de l'aspect linguistique, la francophonie aujourd'hui n'apporte plus grand-chose à ces États francophones qui sont quand même parmi les États les plus pauvres de l'Afrique. Et pour terminer cela, je vais simplement vous dire une chose que, et je répète, je réitère, que la langue française est aujourd'hui considérée, et depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, comme étant la langue de l'élite. C'est pas la langue nationale.
Merci, monsieur Dambélé. Nous retournons dans ce studio. Nous allons retrouver monsieur le ministre. Monsieur le ministre, que répondrez-vous à ceux-là qui disent tout de même quand même que la francophonie est un instrument au service de la France?
Non, moi je pense qu'il faut se séparer de ces vieilles idées, de ces vieux concepts qui sont les résultats de notre histoire qui n'a pas été toujours une histoire lisse avec la France. C'est vrai, la rencontre s'est faite de façon brutale et nous étions en position de faiblesse. Mais on ne peut pas continuer de réagir tout le temps comme si on était toujours en position de faiblesse. Le Mali est un État souverain. S'il adhère à la francophonie, il adhère de façon souveraine. Personne ne lui dicte sa conduite. Personne ne lui dit ce qu'il a à faire. C'est un État souverain qui mène sa propre politique, qui a ses propres aspirations et qui ne demande pas à la France ce qu'il faut faire. Maintenant, il est clair que la francophonie nous permet d'être en contact avec le reste du monde. La langue nous le permet. La langue, ce n'est pas la langue des Français, c'est notre langue à nous tous. C'est la langue que nous avons en partage. L'Algérien l'a bien dit, c'est notre butin de guerre. C'est notre butin de guerre. On nous a colonisés, et puis la colonisation est terminée, ceux qui nous ont colonisés sont partis, mais il y a quelque chose qui est resté. La langue, on l'a captée, on l'utilise à nos propres fins, à notre propre besoin. Ce n'est pas pour la France, ce n'est pas pour les Français. On n'est pas des Français, on n'est pas des... Mais on s'exprime dans cette langue-là, et Césaire le dit, on lui fait des bâtards. Donc notre expression, ce n'est même pas l'expression des Français. Quand vous lisez Césaire, c'est Césaire, c'est Aimé Césaire, ce n'est pas Victor Hugo. Quand vous lisez Senghor, c'est Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas Flaubert. Donc notre personnalité, elle n'est pas remise en cause. La langue, c'est un outil et on se sert de cet outil-là. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Et cela dit, on est un État souverain avec sa politique, avec ses aspirations, avec ses forces, avec ses faiblesses, et on entre en contact avec le reste du monde comme on le souhaite, pas comme les autres le souhaitent. Donc on n'est pas dans la logique de colonisation ou de néocolonisation ou de revendication identitaire, non, il ne s'agit pas de ça.
Doumbi Fakoli, vous êtes toujours en ligne. Est-ce que vous pensez que la francophonie peut être perçue comme une organisation qui n'est pas seulement au service de la France, mais qui sert en fait tous les pays membres?
Oui, mais la francophonie, je crois que vraiment il ne faut pas faire d'illusion. Pourquoi elle existe? Elle existe pour servir la langue française, point très. Elle existe pour servir la langue française. Maintenant, comment c'est qu'elle ne peut pas s'arrêter seulement au niveau linguistique et laisser d'insérer d'autres faits comme des interventions politiques, etc. Moi, je dirais que la francophonie, c'est le pendant de la France-Afrique politique. Exactement pareil. Ce que la France-Afrique faisait, c'est ce que la francophonie fait dans le domaine linguistique, dans le domaine culturel. La francophonie n'a pas d'autre mission que ça. Elle est là pour servir la France. Et c'est de bonne guerre, c'est normal que la France utilise. C'est normal pour la France. C'est de bonne guerre. C'est à nous de dire maintenant, bon, écoutez, les choses ont changé. si nous voulons asseoir notre culture, j'ai tenté de me la dire, hein, l'utilisation d'une langue étrangère, extra-africaine en tout cas, c'est un avortement culturel. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que nous nous approprions une culture qui n'est pas la nôtre. Nous substituons à notre culture une culture qui n'est pas la nôtre. Donc nous essayons de devenir des Français alors que nous ne pourrons jamais nous réaliser dans la peau d'un Français. On peut utiliser cette langue-là, mais en restant nous-mêmes. Le ministre, monsieur le ministre a cité Césaire, a cité Senghor. Effectivement, c'est Senghor plus que Césaire, parce que Césaire est de la diaspora. Césaire connaît un peu moins l'Afrique, même si elle parle de ses ancêtres Bamana. Senghor, lui, a vécu en Afrique. Senghor a fini par comprendre qu'il y a une ambiguïté. Et c'est lui qui a réussi à imposer le mot essentiel qui n'existe même pas en français. Donc nous, on crée des mots. Et M. Césaire a dit, je mets la langue française, je la soumets à mon vouloir écrire. Justement, parce qu'il veut s'affranchir des règles rigides de la langue française. Et aujourd'hui encore, on sait que tous les Africains qui sont primés par les prix français sont des Africains qui écrivent exactement comme les Français le veulent. Vous leur soumettez un texte qui ne convient pas, ils vont vous demander de l'élaguer jusqu'à ce que le texte ait perdu complètement sa substance africaine.
Nous allons tenter un dernier tour de table puisqu'il reste quand même très peu de temps. Alors, cette question à vous d'abord, Guru Dial, est-ce que l'anglo-américain, la langue anglaise, donne toujours des soucis aux Français, aux francophones?
Ben, si nous voyons un peu au niveau international, l'anglais est beaucoup plus répandu que le français. Au niveau des réunions, des symposiums et de toutes les grandes rencontres internationales, je crois que l'anglais est beaucoup plus utilisé que le français. Bon, si vous voyez un peu aussi au niveau scientifique, l'anglais est encore un peu plus utilisé que le français dans le domaine des recherches et autres. Bon, au niveau de l'Afrique, également, c'est à peu près la même chose. Il y a des pays anglophones, il y a des pays francophones. Donc l'anglais, j'ai l'impression que c'est un peu plus utilisé dans toutes les rencontres internationales.
Voilà. Bon, vous terminez donc quoi?
Donc avant de terminer, je vais dire quand même que je vais rappeler le français. On peut l'utiliser comme un tremplin pour développer aussi nos langues nationales. C'est une science, c'est une connaissance qui est là. Donc c'est un trésor qu'on peut exploiter. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas français qu'on ne peut pas profiter de la langue qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le français qu'on a hérité de la colonisation, le français qu'on a appris à l'école. C'est une science.
Voilà, merci, monsieur Diallo. Nous partons une dernière fois en France pour retrouver donc Clément Dembélé. Clément Dembélé, il fut un moment où on parlait de la langue française comme la langue de la diplomatie internationale. Il s'avère que ce n'est plus le cas. Ça veut dire que l'anglais est bien là.
Oui, ce n'est plus le cas. Mais ben, vous savez, tous les spécialistes disent qu'en 2050, la langue française sera l'une des langues les plus parlées. Et certainement, c'est une langue qui va dépasser l'anglais. Dans l'année 2050, surtout beaucoup avec la contribution de l'Afrique du point de vue démographique. Et ça, les chiffres sont là, on le sait très bien. Cela dit, quand on prend aujourd'hui le français, qu'on le compare à l'anglais, et vous savez, je vous dis une chose. L'anglais permet cette expression en profondeur de la sensibilité et de la logique. Le français permet l'expression de la subtilité. C'est-à-dire que quand vous lisez Amadou Kourouma, parce que là j'ai rebondi là-dessus, on a tellement de choses à dire, vous savez, quand vous lisez Amadou Kourouma, Samben Ousmane, Jean-Marie Adjani...
Vous avez 30 secondes, monsieur Dembélé.
Voilà, vous vous rendez compte qu'il y a quand même toujours cette tentative de vouloir exprimer, et même Amadou Ampateba l'a fait, pour exprimer notre état d'âme dans la langue française. Et cela, c'est un exercice très difficile.
Alors, voilà, merci monsieur Dembélé. Maintenant, on va terminer avec vous, monsieur le ministre.
Ce que M. Dembélé dit me rappelle simplement ce qui s'est passé à Dakar au sommet de la francophonie quand le président Macky Sall a baptisé le centre où les travaux se sont tenus, a baptisé du nom du président Abdou Diouf. Dans son discours de remerciement, il a dit un moment, permettez-moi que je le dise en Wolof, et il a parlé Wolof pour remercier le président Macky Sall, parce qu'il dit que c'est ça qu'il ressent le plus profondément. Mais il a ajouté, peut-être que mon maître Senghor aurait trouvé des mots même plus justes que ça en français. C'est juste une question de niveau. C'est juste une question de niveau. Mmh. Cela dit, je pense que la francophonie est un espace très large et donc une grande opportunité. C'est 84 pays et les gens frappent toujours à la porte pour y venir. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devrions être critiques vis-à-vis
merci,
de cela.
Merci, monsieur le ministre. C'est sur ces propos qui s'achève donc le grand dialogue de ce lundi. Alors, je rappelle que nous étions avec quatre invités. À la mise en onde, il y avait Salimo Diouara, régie vidéo, Nuhum Djiré, à la réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation Seydou Fomba. On se retrouve prochainement pour un autre sujet.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.